Voici l'histoire vraie et authentique d'un père, de son fils et de l'ami de son fils. Le trio vogue paisiblement sur la longue côte pacifique du Mexique en direction de l'autre Riviera. Bien évidemment, il fallait que je parle de la Riviera, du fait que j'ai habité de nombreuses années sur la Riviera suisse. Les paysages sont sublimes et féeriques. Soudain, d'un seul coup, sans aucun signe avant-coureur, une tempête violente s'abat sur l'océan Pacifique. Les vagues se déchaînent de tous bords. Malgré les années d'expérience, le skipper et son équipe n'arrivent pas à contrôler le bateau. Et voilà que le navire chavire, entraînant tout un chacun dans la mer, cet abîme qui n'a plus aucune retenue. Par miracle, le père saisit au vol le cordage de secours. Et en un instant, il doit prendre la décision la plus difficile de sa vie. La décision la plus déchirante de sa vie. À quel enfant va-t-il lancer l'autre bout du cordage de secours? À son fils ou à l'ami de son fils? Il n'a que quelques secondes pour réfléchir et prendre la décision. Si vous étiez à sa place, qui est-ce que vous auriez choisi? Lequel sauveriez-vous? Psaume 149. J'aime frustrer les gens, vous voyez. Suspense. J'ai choisi la version sommaire. Célébrez l'Éternel, chantez pour l'Éternel un cantique nouveau. Célébrez ses louanges dans l'assemblée de ses fidèles. Exulte de joie Israël, il est ton Créateur. Que les fils de Sion éclatent d'allégresse à cause de leur roi, qu'ils le louent par des danses, qu'ils le célèbrent avec le tambourin et avec la cithare. Car l'Éternel prend plaisir en son peuple et il accorde aux humbles le salut pour parure. Que ses fidèles exultent de fierté, qu'ils crient de joie quand ils sont sur leur couche et qu'ils exaltent Dieu à pleine voix. Qu'ils tiennent aussi dans leurs mains l'épée à deux tranchants pour punir les nations et pour châtier les peuples. Ils chargeront le roi de chaînes et ils mettront au fer leurs dignitaires pour accomplir sur eux le jugement prescrit. C'est l'honneur qui revient à chacun de ses fidèles. Célébrez l'Éternel. Fin de la lecture. Les trois derniers psaumes forment une unité harmonieuse qui termine dans un éclat de célébration, de joie, de beauté, de magnificence et de louange à l'Éternel. Le dimanche 18 juin, j'ai apporté un message sur l'extraordinaire psaume 148. La création entière est appelée à louer l'Éternel. La création du ciel descend vers la terre pour rejoindre en un cœur la célébration de la terre. Le peuple choisi de Dieu, le summum de la création, arrive sur la scène. Toute la création, de toute sa splendeur, exalte et loue le Créateur. Ce psaume est juste grandiose, un vrai prodige. Nos regards se tournent aujourd'hui vers le psaume 149. Ici, ce sont les louanges et la vocation du plus grand chef-d'œuvre de l'Éternel, l'être humain, qui remplit la scène. La semaine prochaine sera dédiée au psaume 150. Le livre des psaumes débute par Dieu bénissant l'homme et se termine par l'homme bénissant Dieu. Le psaume 1 commence par Dieu. Et le psaume 150 s'achève avec Dieu. C'est une boucle qui se ferme. Dieu est Dieu de toute éternité. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Avez-vous remarqué que ce cantique semble être en totale dichotomie? D'un côté, l'accent est mis sur la louange à Dieu, chanter un cantique nouveau, et de l'autre, il évoque l'épée à deux tranchants, la vengeance et la punition des nations. C'est un peu étrange, ne trouvez-vous pas? Deux versets bibliques semblent tomber de nulle part. Célébrer l'Éternel, chanter un cantique nouveau, exalter la splendeur et la grandeur de l'Éternel, et tout d'un coup, au verset 6 et 7, il est écrit et qu'il exalte Dieu à pleine voix, qu'il tienne aussi dans la main l'épée à deux tranchants pour punir les nations et pour châtier les peuples. Louer et exalter le Seigneur, lui rendre gloire, et en même temps, l'épée à deux tranchants. Serait-ce un encouragement à persévérer, à ne pas baisser les bras dans l'épreuve et la persécution? À l'époque de Néhémie, une situation similaire s'est déroulée. Les hommes construisaient le muraille de Jérusalem. Ils louaient de tout cœur l'Éternel et en même temps, ils se défendaient contre les adversaires. Néhémie 4, 15 à 17. Nous avons donc poursuivi notre travail. La moitié des hommes gardant la lance à la main depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. À la même époque, j'ai encore dit au peuple que chacun passe la nuit à l'intérieur de Jérusalem avec son serviteur, montant la garde pendant la nuit et travaillant pendant la journée. Ainsi, nous ne quitterons pas nos vêtements, ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les hommes de garde qui me suivaient. Chacun gardait son arme, même pour se laver. Et nous, l'Église du 21e siècle, je ne vais pas vous poser la question, si vous gardez les armes pour aller vous laver. Mais pouvons-nous louer le Seigneur de tout cœur et en même temps être attaqués par l'ennemi? C'est une vraie question que nous devons nous poser. Louer le Seigneur de tout cœur, fixer nos yeux sur lui, nous encourage, nous donne la force pour persévérer dans les difficultés, dans l'épreuve et dans les attaques. Comprenez bien, c'est important. Plus nous obéissons à Dieu, plus nous amenons des âmes à Christ, plus nous vivons des combats spirituels. Plus nous reflétons le caractère de Jésus-Christ, plus nous serons à danger pour l'ennemi. Satan s'attaque seulement aux personnes qui le dérangent et dérangent son royaume. Il y a plusieurs personnes dans la communauté, gloire à Dieu, qui vont se faire baptiser le 20 août prochain. Et chaque personne que j'ai déjà rencontrée, je leur ai dit, mais faites attention, juste, il vous faut déjà et d'ores et déjà maintenant savoir qu'il est possible que vous ayez des attaques jusqu'au moment où vous faites baptiser. Parce que le baptême, c'est changer de royaume. On passe des royaumes des ténèbres au royaume de Dieu. Et nombreux sont celles et ceux qui témoignent avant le baptême avoir eu ou vivre des attaques de l'ennemi. Si nous sommes intelligents, nous devrions jubiler. C'est ce que la parole de Dieu dit. Jubiler lorsque l'ennemi nous attaque à cause de notre témoignage et de notre foi en Jésus-Christ. Se faire persécuter, attaquer par l'ennemi et en même temps jubiler. C'est ce que nombreuses personnes vivent, qui sont persécutées. C'est nombreuses personnes qui sont en train de mourir à l'heure actuelle pour leur foi et qui jubilent. C'est ce que Étienne a vécu. Être dans la joie. Parce qu'il sait où est son espérance, il sait où il va aller. Acte 5:41 soutient mes dires. Les apôtres quittèrent le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes d'être battus joyeux d'avoir été jugé digne, d'être maltraité pour le nom de Jésus. En préparant ce message, j'ai profondément été secoué et défié personnellement. Il fut un temps où cette réalité faisait pleinement sens pour moi. Aujourd'hui, je confesse devant vous que ma vie est devenue bien pépère. J'avoue que je ne prends plus trop plaisir aux attaques de l'ennemi. Mais ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous dit. Le focus dans ma vie n'est plus celui qui devrait être. Si mes yeux sont fixés sur Christ, les priorités du royaume de Dieu sont mes priorités. Et au final, c'est la seule chose qui a de l'importance, parce que notre temps ici-bas sur terre est tellement court en comparaison de l'éternité. Lors d'une pastorale de la vallée de Tavannes, nous avons accueilli Samuel Peter Schmidt. C'était bien longtemps après la polémique qu'il y a eu dans son église Porte-Ouverte à Mulhouse. Samuel avait eu le Covid, il en était presque mort, et il s'en est sorti grâce à Dieu. L'église, lors de l'histoire de la polémique, s'est retrouvée plusieurs jours pour prier et jeûner. Et c'est durant ce temps, mis à part pour Dieu, durant ce temps mis à part pour prier, jeûner et louer le Seigneur, que le Covid s'est répandu dans l'assemblée. Ça, j'ai la chair de poule juste en pensée. À nouveau cette contradiction. Louer Dieu, prier, jeûner. Et là, l'ennemi de nos âmes est à l'œuvre. Ce n'est pas parce qu'on fait ce qui est juste qu'on n'est pas attaqué. Bien au contraire, c'est là qu'il faut se réjouir. Jean 10:10. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle aient en abondance. Samuel Peter Schmidt a été profondément affecté. Plusieurs de ses amis et de ses collaborateurs sont décédés dû au Covid. Cette tragédie ne l'a pas arrêté. Il aurait bien évidemment pu baisser les bras. Aujourd'hui, ce qu'il a vécu l'a profondément transformé. Il a grandi à bien des égards. Il est devenu une nouvelle personne, ancrée beaucoup plus en Dieu. Et de voir que Dieu est Dieu et personne d'autre. 1 Jean 4:4. Vous, mes enfants, vous appartenez à Dieu et vous avez la victoire sur ces prophètes de mensonges. Car celui qui est en vous est plus puissant que celui qui aspire ce monde. En travaillant ce psaume, je me suis posé 3 questions. La première, qui est invité à louer, célébrer et adorer l'Éternel? La deuxième, comment sont-ils invités à louer et célébrer l'Éternel? Et la troisième, pourquoi un cantique nouveau? Première question. Qui est invité à louer, célébrer et adorer l'Éternel? Selon notre passage, les fils de Sion, les Israélites, ceux qui accueillent et confessent le roi. Les fils de Dieu ont reconnu Dieu avec leurs yeux en esprit. C'est-à-dire les vrais chrétiens. Hébreux 12, 22 à 24 dit: vous vous êtes approchés du mont Sion, de la cité de Dieu vivant, la Jérusalem céleste, et ses dizaines de milliers d'anges en fait, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans le ciel. Vous vous êtes approchés de Dieu qui est le juge de tout, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur d'une alliance nouvelle et du sang purificateur porteur d'un meilleur message que celui d'Abel. Le Dieu de Jésus-Christ mérite de recevoir tout l'honneur, toute la louange. Tout lui est dû, parce qu'il est Dieu Il mérite absolument tout de nous. Pas seulement une partie, pas seulement ce qu'on désire lui donner, mais il mérite tout de nous. Il mérite notre entière obéissance. Il est le divin créateur, il est notre créateur. Et Dieu n'est pas là pour nous faire du bien. Dieu n'est pas là pour nous faire du bien. Franchement, ça c'est important. Dieu, il n'est pas là pour me bénir. Oui, c'est un effet que Dieu nous bénit, effectivement, mais il n'est pas là pour ça. Ce qu'il demande de nous, c'est que nous l'adorions. Ce qu'il demande de nous, c'est que nous le cherchions. Ce qu'il demande de nous, c'est que nous obéissons à ses commandements, que nous obéissons au grand commandement qu'il nous donne, que nous soyons ses témoins. Ésaïe 44, 6. Voici ce que dit l'Éternel, le roi d'Israël, celui qui le rachète, l'Éternel, le maître de l'univers. Je suis le premier, le dernier, en dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. L'Éternel doit être loué, célébré et adoré dans l'assemblée de ses fidèles, dans l'assemblée des saints. Nous sommes l'assemblée des saints, c'est-à-dire dans l'Église, le nous communautaire. Bien évidemment, chacune et chacun d'entre nous, on peut louer et adorer Dieu seul à la maison. Parce qu'on n'est pas toujours ensemble. Mais l'impact n'est pas le même. Il y a une force et une puissance quand les enfants de Dieu, ensemble, unis d'une même voix, viennent célébrer, adorer, louer le Seigneur Jésus-Christ. Il y a un impact qui n'a aucune relation avec celui où, quand moi seul à la maison, je loue le Seigneur. Dieu aime par-dessus tout le nous communautaire. Cela démontre l'importance de l'Église. L'Église est le choix de Dieu. C'est lui qui l'a voulu. Il aime que ses enfants se retrouvent. Il aime quand les siens viennent lui rendre un culte. Le nous avec nos frères et sœurs en Christ est essentiel pour Dieu. Il est vital pour nous. C'est ensemble que nous grandissons en stature et en maturité. C'est au contact de nos frères et sœurs en Christ que nous transformons. C'est au contact des uns des autres que Dieu peut nous travailler, que Dieu nous travaille, que Dieu nous transforme, qui nous rend plus à son image, plus à sa ressemblance. Le nous communautaire existe pour nous encourager également, mais il existe aussi pour notre sanctification, tout comme vos conjoints sont là pour votre propre sanctification. L'Église est aussi là pour ça, pour nous aiguiser les uns aux autres, pour avancer, pour être en chemin ensemble, pour être et rester sur la bonne voie qui mène à la vie éternelle. Sans le nous communautaire, nous pouvons vite partir dans des idées, dans des théologies qui n'ont plus grand-chose à voir avec la parole de Dieu. On peut tous avoir plein d'idées, plein de pensées, plein de choses qu'on croit, mais est-ce que c'est fondé sur la parole de Dieu? Et c'est là qu'il faut creuser la parole pour être sûr, mais c'est fondé sur quelque chose, c'est pas fondé sur mes intuitions, mes pensées, une psychologie ou tout autre. C'est vraiment fondé sur la parole de Dieu. J'ai un oncle qui, dans sa jeunesse, était moine. Donc, il a fait de nombreuses études. C'est vraiment un grand érudit. Et il habitait dans un monastère, bien évidemment. Et un jour, il a rencontré une jolie femme. Et son cœur a chaviré. Et il a décidé de renoncer à ses vœux. Il a été, bien évidemment, fortement blessé par l'Église catholique, qui l'a renié et rejeté parce que, voilà, il prenait une autre voie que celle qu'il avait choisie, de celle qui était son appel à la base. Et je dois dire qu'aujourd'hui, ça fait de nombreuses années déjà, quand j'étais à Jeunesse en Mission, quand je partageais avec mon oncle, je me disais, oula, il a une foi bancale. Il vivait sa foi seul à la maison, sans aucune église. Il n'allait absolument plus à l'église parce que l'église l'avait blessé. Donc on part d'une extrême à l'autre extrême, bien évidemment, comme l'être humain fait. Et maintenant, aujourd'hui, il a une foi qui n'est pratiquement plus basée sur la parole de Dieu. Il s'est construit une foi à son image, à ce que lui l'aimerait. Mais nous, communautaires, vécus d'une manière biblique et saine, est une protection pour chacune et chacun d'entre nous. C'est une protection que si je prêche quelque chose qui n'est pas en adéquation avec la parole de Dieu, que quelqu'un d'entre vous vienne me voir et me dise « mais ça, c'est pas biblique » et qu'il me le prouve. C'est une protection que quand il y a un prophète dans l'église qui commence à parler, prendre la parole, que les autres prophètes sont là pour écouter, mais s'assurer que ce qu'il dit vient vraiment de Dieu. Et c'est ça le corps de Christ. Se protéger aussi les uns des autres quand il y a une déviance, mais nous encourager en même temps et nous aider à rester sur le chemin qui nous mène à la vie éternelle. Deuxième point. Comment sont-ils invités à louer et célébrer l'Éternel ? Par la joie et l'allégresse, par des danses et des instruments de musique. Exulte de joie Israël, il est ton Créateur. Que les fils de Sion éclatent d'allégresse à cause de leur roi. C'est en ce roi que se réjouissent Israël et les fils de Sion. Ils se réjouissent dans la danse du tambourin et chantent des psaumes en s'accompagnant de la lyre à 10 cordes. Le tambourin et la sitar, les danses et les cris de joie, que de bonheur! Cet épisode vous fait très certainement penser au roi David qui dansait avec des cris de joie à la venue de l'arche de l'Éternel en 2 Samuel 6,16. Michal, son épouse, fille de Saul, regardait par la fenêtre lorsque l'arche de l'Éternel entra dans la ville de David. Et en voyant le roi David sauter et danser de joie devant l'Éternel, elle éprouva du mépris pour lui dans son cœur. Des fois, Dieu, par son esprit, nous demande de faire des choses folles pour lui, des choses incompréhensibles et inimaginables. David en est un parfait exemple. Lorsque nous ne comprenons pas ce qui se passe ou une manifestation de l'Esprit Saint, soyons lents à juger et demandons à Dieu de nous donner du discernement. Bien évidemment, il y a des excès, mais ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. 1 Corinthiens, de nouveau, les extrêmes. 1 Corinthiens 1, 27 à 29. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui le sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. Au verset 5, il est écrit que ses fidèles exultent de fierté, qu'ils crient de joie quand ils sont sur leur couche. Si vous êtes comme moi, vous posez peut-être la question, mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire? La mention du lit se réfère au fait de pouvoir se coucher sans crainte, avec une bonne conscience, comme le dit si bien le dicton, qui n'a aucun sens, dormir sur ses deux oreilles. Je ne sais pas comment on fait pour dormir sur ses deux oreilles, mais bon. Réjouissons-nous dans le Seigneur, réjouissons-nous dans la gloire présente et la gloire à venir. Et la troisième question, pourquoi un cantique nouveau? Tout ce que Dieu créa était bon, mais lorsqu'il créa l'être humain, il dit « ceci est très bon ». Le reste était bon, toutes les créatures. Tout ce que vous pouvez imaginer, que vous trouvez que c'est tellement magnifique, splendide, c'était bon. Mais chacun d'entre nous, c'était très bon. Genèse 1,31. L'Éternel Dieu se plaisait et se réjouissait en sa création. Malheureusement, avec la chute, le péché entra dans le monde. Ceci déplut à Dieu. L'Éternel prend plaisir en son peuple et il accorde aux humbles le salut pour parure. Le peuple de Dieu s'est racheté et sont conviés à entonner un chant nouveau. C'est bien un cantique nouveau, un cantique jamais vu, jamais entendu auparavant. Un cantique empreint de reconnaissance, une nouvelle révélation. C'est une louange chantée dans l'assemblée des saints. C'est une nouvelle situation qui porte les marques de la victoire. Chantez en l'honneur de l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des merveilles. Chantez-lui un cantique nouveau, faites retentir vos instruments et vos voix, car la parole de l'Éternel est droite et toute son œuvre s'accomplit avec fidélité. Psaume 33, 3 à 4. Israël se réjouit en tout ce que Dieu fait. Il se réjouit en leur Créateur. Les habitants de Sion sont dans la joie, l'allégresse à cause de leur roi. Ils méritent de recevoir toute la louange et toute l'adoration. Ce psaume a également une portée prophétique. Il s'agit de l'avènement de notre Dieu en personne. Il est évident que ce psaume parle de la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Bientôt viendra le jour du jugement, mais pas seulement. Ça sera également le jour de la justification. Le peuple de Dieu aura part à l'œuvre de Christ. Le peuple de Dieu aura part à l'œuvre de Christ. Christ viendra se débarrasser du mal et de toutes les œuvres de l'ennemi. Toutes les attaques, toutes les choses difficiles qu'on vit, toutes les maladies, il va venir réduire tout cela à néant. Il rétablira la vérité. Il apportera la justice. Ceux qui ont été méprisés seront alors honorés lorsque Dieu jugera ses ennemis. 1 Corinthiens 6, 2. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde ? Ne savez-vous pas, Église, que nous jugerons le monde ? Voici que le Seigneur va venir avec des milliers d'anges pour exercer son jugement sur tous et pour faire rendre compte à tous ceux qui ne le respectent pas, de tous ces actes qu'ils ont commis dans leur révolte et de toutes les insultes que ces pécheurs sacrilèges ont proférés contre lui. Jude 1, 14. Que d'espérance nous avons en Jésus-Christ. Il mérite vraiment tout de nous. Il mérite toute notre obéissance. Il mérite tous les sacrifices que nous pouvons faire parce qu'il est Dieu. Comprenez bien, les ennemis de l'Église ne sont pas le sang et la chair. Non, ne nous trompons pas de combat. La bataille de l'Église se situe à un autre niveau, à une autre sphère. Il s'agit des puissances spirituelles qui sont dans les lieux célestes. Voici notre ennemi. Celui qui nous donne des idées, des pensées qui ne sont pas de Dieu. Celui est qui vient et qui vient nous parler. Répondez, c'est peut-être le Seigneur. Notre épée à deux tranchants est la parole de Dieu. La parole de Dieu a le pouvoir de détruire les raisonnements prétentieux et toutes les puissances hautaines qui se dressent contre la connaissance de Dieu. La parole de Dieu est puissante. Réalisons-nous ce que nous avons dans la main. 2 Corinthiens 10, 5. Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Dieu. Nombreux sont les passages qui parlent de l'orgueil humain. C'est impressionnant. Combien de passages parlent de ça? Et nous serons jugés pour cela aussi. C'est, je pense, aujourd'hui dans l'Église le plus grand des péchés. C'est l'orgueil ou penser qu'on sait mieux. Je reviens à mon histoire sur le naufrage. Qui va-t-il sauver? Son fils ou l'ami de son fils? Pour qui votre cœur tend? Le Père sait que son fils est un chrétien né de nouveau. Il sait également que l'ami de son fils n'a pas encore donné sa vie à Jésus-Christ. Alors, c'est avec une douleur atroce qui n'a de comparable que la hauteur de ses vagues meurtrières qu'il crie à son fils « Je t'aime, mon fils !» et lance le cortège à l'ami de son fils. Il le ramène sain et sauf au bateau. Après un dernier effort, il arrive tant bien que mal à retourner la barque. Pendant ce temps, son fils disparaît dans les profondeurs de l'océan. Son corps n'a jamais été retrouvé. Le Père savait que son fils passerait l'éternité avec Jésus auprès de Dieu. Il ne pouvait se faire à l'idée que l'ami de son fils puisse passer l'éternité séparée de Dieu. Quelqu'un m'a posé, pour les baptêmes avec qui je discutais, qui m'a posé la question, mais le mal, qui c'est qui ira au paradis, c'est quoi le paradis, ainsi de suite. Et dans la discussion, on a parlé des grincements qu'il y aura. Il y a un verset qui parle des grincements avec Lazare, et des flammes, et puis de brûler en enfer. Mais l'enfer, je ne pense pas que ça sera ça. Et ce n'est pas seulement moi, nombreux théologiens, ou je pense pratiquement tous les théologiens vont dans la même direction. Ça, c'est une image, parce que ça sera encore pire que ça. Vivre l'éternité sans avoir accepté Jésus-Christ dans sa vie, c'est vivre l'éternité séparée du Créateur, séparée de Dieu. Vivre l'éternité dans le néant. Vivre l'éternité sans avoir Dieu dans notre vie, sans pouvoir le louer, le vénérer, c'est à cela qu'on est appelé. Donc j'imagine, ou plutôt je suis persuadée que c'est encore pire que ces grincements, de vivre toute l'éternité, mais qui durera toute l'éternité, donc à tout jamais, séparé de son Créateur. Aujourd'hui, l'ami de son fils qui a été sauvé par cet homme, est devenu pasteur. Il chante pour l'Éternel un cantique nouveau. Il loue Dieu, le célèbre et l'adore de tout cœur. Et ceci est une vraie histoire. Ce n'est pas juste imagé. Ce cantique nouveau est l'expression suprême de la louange pendant le règne de Christ sur la terre. Les saints se réjouiront dans la gloire de leur roi. Cet Alléluia qui monte depuis la terre fera écho au cantique chanté dans le ciel. Cette gloire est pour tous les saints, pour toutes les communautés qui confessent Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Cette gloire est pour chacune et chacun d'entre nous. Alléluia! Alléluia signifie louer Dieu, loué soit le Seigneur. Soyons dans la joie, l'expectation et la reconnaissance envers le ressuscité. Il est digne de recevoir toutes nos louanges et toute notre adoration. Alléluia. Amen. C'est dans cet même esprit que nous allons prendre la scène. Nous allons prendre la scène dans cet esprit d'alléluia, de reconnaissance envers les bontés de notre Seigneur Jésus-Christ, de son Père, qui lui a tout décidé, qui lui est à la base de toute chose, et de l'Esprit Saint qui est venu habiter en nous. Je ne lirai aucun des textes fondateurs de la scène. Je n'apporterai aucune symbolique ce matin. C'est un temps entre toi et entre Dieu. Prenons un moment pour réfléchir à un moment au message ou un alléluia que nous avons dans le cœur. Pour le dire autrement, quels sont mes sujets de reconnaissance envers le Seigneur Jésus-Christ ? Il n'y a pas de bonne ni de mauvaise réponse. Ensuite, je vous invite à vous mettre en groupe de deux ou trois et à partager vos sujets et peut-être à prier les uns pour les autres. Quand vous êtes prêts, à votre rythme, avancez-vous pour prendre la scène. Venez, car tout est prêt. Karine et moi-même serons devant pour vous donner les éléments. Soyez bénis.